Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Vous êtes ici?
Oui.
Oui. C'est tout pour la musique sur France Inter du lundi au vendredi, 22h, 23h. Bonsoir et bienvenue dans Côté Club, votre magazine inclusif de toute la scène française. Le rendez-vous en direct de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Début de semaine en douceur et avec conviction pour nos invités. Bastien Lallemand en micro-sieste avec Albin de la Simone, Armelle Pioline, JP Nataf et Véronique Mortaigne en vrai. Bonsoir à vous tous et toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
On s'allonge ce soir au programme Les Micro-Siestes Acoustiques Volume 1, retour sur des années de musique à écouter couché, les yeux fermés ou pas. Pour une écoute flottante, une expérience à vivre en live ce soir. Véronique Mortaigne, vous revenez sur une figure dissidente de la chanson française, une insoumise, râleuse, drôle, impertinente, une femme de doute qui sut dire non. Anne Sylvestre, Une vie en vrai, c'est votre nouveau livre dans lequel vous parlez aussi de vous, de vos combats, vos convictions, un double portrait en somme. Marion ?
C'est le retour des nouveautés nouvelles, ça faisait longtemps. Longtemps, on va découvrir trois sons vers 22h30.
Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ban Mwen on chanson, c'est Delgrès qui ouvre la séance. Est-ce que ça vous convient, Bastien Lallemand?
Ah oui, parfait.
Très bien, Véronique Mortaigne, pas de veto?
Non, pas du tout, impeccable.
C'est parti sur France Inter. Soleil qu'a levé, oui, jour, soleil qu'a levé, Sébastien Lallemand, bientôt rejoint par ses complices Albin de la Simone, Armel Pioline, JP Nataf et Véronique Mortaigne sont nos invités côté club ce soir. J'imagine que vous vous connaissez tous les deux, Bastien Lallemand, auteur, compositeur, interprète, digne et discret représentant d'une chanson française génération des années 2000. Et puis Véronique Mortaigne, journaliste, critique musicale qu'on a beaucoup lu dans les pages du Monde. Vous étiez en charge de la chanson et des musiques du Monde, des livres sur des artistes, Manu Chao, Cesaria Evora, Gainsbourg, Birkin et aujourd'hui Anne Sylvestre. Bref, est-ce que vous êtes déjà rencontrés?
Rencontrés, non.
Jamais?
Ah, je crois
non,
pas.
Non, on s'est croisés à plusieurs reprises, mais rencontrés,
on aurait toutes les raisons de... On aurait eu l'occasion de se rencontrer.
Et ben voilà, c'est fait.
Et ben c'est aujourd'hui. On va parler des siestes acoustiques avec la sortie d'un album, Micro-sieste acoustique volume 1. Déjà assisté? Vous l'avez déjà pratiqué, Véronique Mortaigne?
Eh bien non, j'avoue.
Mais comme ça dure,
bientôt. Ça va faire 12 ans, 12 ans,
mais 12 ans, oui. C'est ça.
Parfait. Et on rate, hein. Donc...
Ah bah, mais la vie est faite de ratage.
Il y a des trous dans la couverture.
Ouais. Ouais. Et un focus sur Anne Sylvestre. Est-ce que ça a pu fonctionner pour une comme référence pour vous, Bastien Lallemand?
Ben, je connais pas très bien.
Eh ben voilà, c'est parfait. C'est l'émission du siècle. Excellent. Bon, alors pour vous justement me mettre en commun, je vais vous demander de bien vouloir commenter deux sons qui ont un rapport avec votre histoire, avec votre livre et vous, votre parcours, Bastien Lallemand.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons.
Qui prend la main, Bastien Lallemand ou Véronique Mortaigne?
Moi je veux bien prendre la main, d'autant que c'est vraiment une de mes chansons préférées au monde et que j'ai eu la chance de la chanter très, très récemment à Bordeaux pour une belle soirée Brassens. Et c'est aussi une chanson que je chante à mes enfants pour les endormir.
Ça marche?
Bah ouais.
La chasse aux papillons pour les endormir.
Oui, parce que moi, quand j'étais petit, ce type de chanson, ça me racontait comme une histoire, en fait. Parce que, bon, y a un début, un milieu, une fin, y a une progression, il y a des personnages, il y a des paysages, et puis, eh ben, c'est tout ce que j'aime dans la chanson, en fait.
Et vous, qu'est-ce qu'on vous chantait pour vous endormir quand vous étiez enfant?
Bah, en fait, c'était déjà Brassens.
Donc une vie linéaire pour Bastien Lallemand.
Il n'y a pas eu que ça dans ma vie non plus.
Non, mais je peux imaginer. Et pour vous, Véronique Mortaigne, qu'est-ce que ça pourrait évoquer?
Eh bien, là, effectivement, bah, ça évoque les débuts d'Anne Sylvestre et de Brassens, qui ont fréquenté les mêmes lieux, notamment bah, les Trois Baudets avec Jacques Canetti, et puis les cabarets Rive Gauche. Et Brassens a toujours beaucoup protégé Anne Sylvestre, qui détestait qu'on l'ait appelée la Brassens en jupon.
La Brassens en jupon, c'était ça, oui.
Ça l'énervait énormément, oui. Et donc elle s'en défendait beaucoup, mais c'est pas Brassens n'avait pas inventé cette histoire. Il disait que elle était vraiment une auteure, compositrice et interprète formidable et qui écrivait comme nul autre. Il l'a toujours énormément défendue.
Défendue même à la télévision ou lors d'un concert parce qu'elle voulait chanter une chanson, Les gens qui doutent.
Oui.
La télévision n'avait pas voulu.
Non, ben, il voulait censurer. C'était Mariti et
Gilbert Carpentier.
Et Gilbert Carpentier qui trouvait, parce qu'il y avait, il devait y avoir con dedans.
Voilà, il y avait un gros mot.
Il y avait un gros mot, ce qui était considéré comme un gros mot.
Alors qu'il y en avait plein chez Brassens.
Non, tout le monde le sait qu'il n'en avait pas.
Il y en avait plein chez Brassens, mais justement, ça ne se dit pas dans la bouche d'une jeune femme.
Exactement. Hein. Donc, il ne voulait pas qu'elle chante cette chanson, et Brassens avait pris sa défense en disant si ça ne se fait pas, moi non plus, je ne vais pas chanter.
Voilà. Le deuxième son devrait vous surprendre.
On dit qu'ils se ressemblent, ça semble.
Toi, mon ombre.
Oh, mon soleil. Tu es juillet et je suis décembre. Et pourtant, nous sommes pareils.
Je suis un ciel d'azur sans nuages. Un voilier blanc sur la mer.
À chacun sa saison.
Est-ce que vous prenez Bastien Lallemand?
J'ai jamais entendu cette chanson.
Je l'adore.
Ah ouais.
Un duo entre Barbara et Johnny Hallyday.
Et Johnny Hallyday, c'est ça.
Exactement.
Ah ouais, j'en avais entendu parler, mais je crois que c'est la première fois que je l'entends.
Ouais, non, c'est dans le coffret Barbara l'intégrale. Il y a même d'autres chansons. Elle reprend une chanson, notamment qu'on passe souvent ici, oui. D'ailleurs, de Claude François, absolument magnifique. On a l'impression que c'est elle qui l'a composé quand elle l'interprète. Barbara, dans votre parcours, très important aussi.
Ben ouais, tout comme Brassens, c'est aussi des chansons qu'on me chantait, enfin, qu'on me faisait entendre enfant. Et a commencé une histoire très, 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 enfin, très importante avec Nantes, la chanson Nantes, qui était l'histoire aussi de ma mère. Enfin, une partie de cette histoire m'a été racontée à travers cette chanson. Voilà, et puis voilà, c'est une chanson importante.
Et quel était le lien avec votre mère?
En fait, la disparition d'un père, et puis ce train qu'on prend trop tard, et puis ce,
on arrive trop tard pour la disparition de son père.
Voilà, et c'était l'histoire de ma mère. Elle me l'a raconté à travers cette chanson, en me faisant entendre cette chanson, en me disant que c'était aussi un peu de son histoire.
De son histoire.
Bah, c'est pour ça que c'est magnifique, les chansons et les chanteurs, parce qu'ils incarnent des choses pour nous, des choses intimes, sans qu'on le sache complètement. Et là, vraiment, c'est la rencontre de deux monstres sacrés, quand même, qui sont des gens de scène, des gens qui adhèrent à leurs propos, qui adhèrent à leur physique d'une manière exceptionnelle. Donc, j'aurais bien aimé les voir ensemble.
D'autant plus que j'ai choisi cette chanson en lien aussi avec votre parcours d'écrivaine et d'autrice, puisque vous avez consacré un livre à Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday, d'ailleurs, qui revient aussi dans ce livre, vous lui consacrez quelques pages autour d'un secret de famille qui concerne aussi le secret de famille d'Anne Sylvestre. C'était quoi le secret de famille de Johnny Hallyday qui la tue, en fait?
C'est la collaboration, et c'est quelque chose qui... que moi j'ai même découvert en écrivant ce livre-ci, c'est-à-dire que c'est un épisode de notre histoire qui continue à nous hanter quotidiennement, et même des gens qui n'ont pas, même pas la génération d'après-guerre, même les plus jeunes. Si vous regardez aujourd'hui la télévision, une soirée à la télévision, il est tout le temps question de la guerre, il est tout le temps question de la collaboration. Ça a été remis, je ne dirais pas au goût du jour, mais sous les feux de l'actualité par un candidat à la présidence de la République qui prétendait que Pétain avait protégé les Juifs. Et donc, on n'a pas tourné cette page. Et Anne Sylvestre était la fille d'un collaborateur qui était un des bras droits de Doriot, du PPF. Et Johnny Hallyday, contrairement à la légende, mais il l'a lui-même avoué.
Avoué un jour, oui.
Un jour, il n'est pas parti à Londres quand il était petit pour aller se produire en spectacle, mais parce que l'oncle maternel, chez qui l'oncle paternel, pardon, chez qui il habitait, en fait, était un des présentateurs vedettes de la radio Colabo, et a été condamné à 8 ans de prison. Et c'était à la libération, et donc c'était la honte. Et donc sa femme est partie avec ses filles et le petit Hallyday, moyennant quoi la mère de Johnny gardait l'appartement et allait porter des colis à Jacob Marr, qui était encabané pour virulence dans ses propos.
Dans ses propos de collabo à l'époque. Oui. Un secret bien gardé du côté de Johnny Hallyday, un secret tu, mais qui avait été dévoilé notamment par la sœur. On y reviendra dans quelques instants, la sœur d'Anne Sylvestre. On va partir en live avec vous, Bastien Lallemand. Je vous laisse gagner le micro derrière nous, rejoindre vos complices, Armel Pioline, JP Nataf, Albin de la Simone, pour une micro, mais alors micro-sieste, le temps d'un titre. Le titre que vous avez choisi, et qui est d'ailleurs sur l'album, presque l'avant-dernier, je crois, c'est l'avant-dernier titre, c'est Les Bijoux. Vous resituez ce titre-là, Bastien Lallemand?
Alors, c'est une chanson que j'avais écrite et enregistrée en 2004, hein, enfin, sur un disque qui est sorti en 2005, Les Érotiques, et c'était un duo. On entendait Émilie Loiseau sur ce duo. Et puis, on l'a reprise donc pour ce disque de sieste acoustique qui est enregistré en mai 2021, donc il y a un an pile. Et voilà, et ça nous a donné l'occasion de chanter tous les huit qu'on était en studio sur ce duo. Voilà.
Ce soir, vous êtes quatre en live sur France Inter pour Côté Club. Merci à vous.
Que faites-vous? J'écris des bijoux. Le beau métier d'orfèvre. De quoi parlez-vous? De tout et de rien. De moi. Oui, surtout de toi. Qu'est-ce qui vous inspire? Un joli bijou qui vous fait sourire. Vous. Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous, c'est fou. Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous, c'est fou.
chez vous
des poux.
Et que trouvez-vous?
Un joli bijou
sur moi.
Oui, caché sur toi.
Pour le jeu de mots,
deux petits cailloux,
des perles de rien
du tout.
Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous, c'est fou. Et sur vos genoux, moi j'inspire tout. Moi j'inspire vous, c'est fou.
Super, vous pouvez rouvrir les yeux. Les bijoux, Bastien Lallemand, Armelle Pioline, JP Nataf et Albin de la Simone. Prise de son impeccable, service public, Thomas Langlin et Alexandre Chenet. Bastien Lallemand, Armelle, JP Nataf, Albin, vous nous rejoignez. C'est le noyau dur de ces siestes acoustiques qui font fêter leurs 12 ans en juin prochain. On a fêté les 10 ans, les 11 ans, bon, on les a passés. Les 12 ans, donc, je restitue au départ, c'est votre idée, Bastien Lallemand, pour des représentations, hein, quelques représentations au départ. Et puis ça a pris, le public en redemande, et voilà que la famille des amis augmente. Avec aujourd'hui un immense collectif, vous êtes à peu près 250 musiciens, auteurs, écrivains.
Disons qu'il y a 250 artistes à peu près qui sont passés à un moment donné dans ces 12 années dans ce petit cercle cocon plutôt des siestes acoustiques.
La première c'était où ?
C'était à la campagne, dans un festival qui était dédié à la fois à la nourriture et à la musique. Et puis après un grand festin, je me disais de quoi vraiment ont besoin les gens. En tout cas moi j'avais besoin d'une sieste. Donc j'ai proposé à quelques amis artistes qui étaient là, et notamment JP, Armel et Albin.
Ah, vous étiez déjà à l'origine, ouais.
De se réunir dans un petit atelier d'artistes où on a proposé aux gens de s'allonger et qu'on leur jouerait de la musique sans applaudissements pour pas réveiller ceux qui dormiraient éventuellement. Et en fait, cette forme toute bête et toute simple n'a depuis jamais plus évolué puisqu'elle est idéale.
Avec une petite cloche qui ouvre
début,
la séance,
et une
petite cloche qui, pour la fin. Au départ, l'idée c'était de jouer comme à la maison. Ça veut dire quoi, jouer comme à la maison, quand on est musicien, JP Nataf, Armel?
Ça veut dire pas de câble, pas de micro, pas de retour, pas de branchement qui dure des heures et tout. C'est-à-dire prendre sa guitare, être avec ses copains, et puis juste projeter ce qu'on a à donner. C'est-à-dire, là, de la façon la plus douce possible, hein, parce qu'on parlait de noyau dur, mais on a le noyau doux plutôt, moi je pense. Mais c'est juste, ouais, c'est ça, c'est retrouver, on revient à ce que disait Bastien sur les berceuses qu'on chante, enfin les chansons qu'on chante à nos enfants pour les endormir. C'est un peu la même chose avec des grands bébés, quoi. On devient tous des grands bébés.
Armel ?
J'ai rien à ajouter, ils parlent tellement bien tout cela. Mais voilà, ouais, c'est...
Vous souvenez de la première fois ?
Ouais, je m'en souviens très bien du festin. C'était exactement comme Bastien vient de le raconter. On avait fait un festival normal avec du son, de la scène, tous les problèmes que ça génère, hein, aussi.
Alors on a quand même perdu quelque chose avec le Covid, hein, parce qu'on a quand même les premières siestes, il y avait quand même des amas de corps.
Oui,
comme ça, un peu agglutiné, ça c'est un truc qui s'est un peu perdu.
Ça, sur les 12 ans, c'est
la distanciation sociale.
Vous avez assisté à des choses un peu intéressantes dans le public pendant qu'ils étaient allongés ?
Oh là là, si tu savais.
Après, le volume sonore est très très faible, donc le moindre bruissement de quoi que ce soit...
Le moindre ronflement aussi.
Ouais. Alors,
Albin de la Simone.
Ce qui est marrant, c'est que peu de gens dorment quand même. En fait, les gens, surtout, ils regardent le plafond, où ils sont dans un état, ils sont allongés par terre, mais... parfois quand même quelqu'un atteint l'endormissement. Et là, c'est assez génial parce que on a des espèces de tracteurs qui traversent la truc, mais c'est tout doucement et c'est super et tout le monde adore et tout le monde après vient dire hey, il y en avait un qui ronflait là.
Bravo.
Il y a un côté c'est même chouette d'entendre les gens dormir. Quoi.
Alors c'est marrant parce que réhabiliter la douceur, l'acoustique, c'était déjà quand même le projet de votre tout premier album en 2003, Bastien Lallemand. En fait, vous chantiez comme on susurre à l'oreille. En fait, vous avez perpétué ce qui était quand même votre ADN dans ces siestes acoustiques.
Oui, mais en plus, c'était pas seulement le mien, c'est aussi, et Albin est aussi pour quelque chose, parce que en 2010, il est allé à la Loge, qui était un petit théâtre
à rue Paris.
Charonne, et il a commencé à faire ce qu'il fera par la suite pendant plusieurs années, c'est des concerts non amplifiés. Et c'est vrai que moi, tout de suite, ça m'a plu parce que j'avais déjà pratiqué ça et qu'il avait, il m'a redonné la permission, quelque part, d'envisager de faire mes musiques dans le plus simple appareil, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
C'est la conjonction de ça et d'un groupe qu'on avait eu envie de monter à un moment avec JP Armel, enfin le groupe Holden. Il y a donc Armel du groupe Holden et Moqueux, JP, Pascal Parizeau,
Bertrand
Belin, Bastien et moi. Et en fait, on avait envie de jouer ensemble. On est chanteurs, on vit tout le temps seul à faire nos chansons avec nos groupes, mais on partage jamais avec les autres chanteurs. Donc là, on avait monté un groupe qui s'appelait le Dahu, et avec lequel on pouvait expérimenter des trucs et jouer sans sono, comme ça. On avait monté ce concept-là. Et en fait, ça marchait pas trop parce qu'il y avait pas de tête au Dahu. Et finalement, les siestes, c'est le mélange de cette idée de non-sono et de collectif de chanteurs qui ont envie de partager entre chanteurs des trucs et s'accompagner les uns les autres.
Et puis il y a un truc très décomplexant, c'est-à-dire quand on a fini par trouver son petit bonhomme de chemin après nos années de jeunesse, comme ça, quand on se cherche un peu et qu'on finit par devenir chanteur de variété comme on est, c'est-à-dire d'arriver à faire des chansons et puis à mettre sa patte, il y a quelque chose qu'on ne deviendra jamais, c'est un musicien de séance, à part Albin qui a quand même cette chance-là, c'est d'être devenu... Bah, t'as commencé quand même comme ça. Ouais. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas assez bons musiciens. On sait s'accompagner. Et là, dans les siestes, on peut devenir un vrai musicien. Ouais. C'est-à-dire qu'on est au service des autres. On apprend des chansons un peu vite fait comme ça. Mais ça nous donne un petit rôle. Moi je suis assez fier d'être, par exemple, bassiste souvent dans les siestes.
Oui, vous avez été guitariste, par exemple, pour Vanessa Paradis, pour Camélia Jordana. Donc, de tous les rôles, tous les rôles s'inversent.
En plus, on apprend beaucoup parce que tout d'un coup, on se retrouve tous les dimanches. Enfin, à une époque, c'était quasiment. Enfin, moi, j'en fais tous les dimanches. Mais on se trouve dans la mécanique des chansons des autres. C'est-à-dire que c'est un masterclass toutes les semaines. On se retrouve avec des guitaristes qu'on admire, des pianistes qu'on admire. On nous demande de prendre la basse, on regarde une grille, on voit comment harmoniquement sont foutues une chanson de JP ou d'Armel Pioline. Donc on se balade dans les univers des uns et des autres, dans leur écriture, et en 10 ans, je peux vous assurer qu'on apprend énormément.
T'en as vu des chansons. Parce que nous on fait une sieste sur 5 peut-être.
Albin de la Simone.
Mais Bastien fait toutes les siestes.
Le petit vénard.
Donc toi t'as vraiment... et d'ailleurs, l'enregistrement du disque, c'est en ça qu'il est très rare ce disque dans son concept, c'est que c'est que des chanteurs qui accompagnent d'autres chanteurs. Il n'y a pas de musicien dont c'est le métier. C'est vraiment, on est tous des chanteurs et on s'accompagne comme on peut, quoi. Et ça s'est répété le jour même.
Eh bien, on va écouter ce que ça donne. Par exemple, premier extrait, Les Lacets.
Le ciel est dur, la tempête est déjà dessinée. Oh, comme j'ai besoin de nous, là où le vent s'est levé. Comme j'ai besoin de nous, là. Autant que je tangue la terre, tangue la route, monte en lacet.
Et là, c'est donc avec la voix de JP Nataf. On passe à Ils veulent les jonquilles.
Ils cueillent.
Ah, ils cueillent les jonquilles.
Mais ils veulent.
Mais c'est pas mal, ils veulent aussi. Ouais.
Elle a 8 ans, il en a 5. De vrais bijoux d'indépendance. Mais leur présence là-bas au loin. L'intolérance.
Donc, au premier plan, on a reconnu Albin de la Simone, et tout de suite, au premier plan, on va reconnaître Armel Pioline.
Tu vois, le froid nous a chassés, toujours plus loin vers l'obscurité, dans des pays même pas sur la carte, au hasard.
Donc on l'entend pour ces siestes des interprètes avec des timbres différents, bien sûr, mais quelque chose en commun, il n'y a pas de gueulard de ce qu'on appelle les chanteurs à voix. Ce ne sont pas les enfoirés, quoi. Des voix posées qui jouent la douceur, c'est ce que vous écoutez aussi les uns les autres, c'est-à-dire... On n'est pas dans l'école Florent Pagny. Ah, Patrick Fiori.
C'est sûr.
Ouais, mais là, vous prenez des extrêmes quand même.
Moi, j'ai beaucoup écouté Led Zeppelin quand j'étais jeune. Donc, non, c'est juste. C'est comment amener la musique un peu ailleurs. C'est-à-dire que je crois que notre génération, enfin, moi, je suis encore plus. Je suis un peu papy pour mes copains. Non, mais quand on est arrivé, si on avait la chance de faire un disque, après, on partait en tournée, on vous foutait sur des scènes, il y avait une sono.
Tout à fait.
Et le public attendait un certain niveau sonore et c'était une équation de base, quoi. Or, il y a quand même des tas de cultures, et puis dans l'histoire de l'humanité, des tas d'endroits où la musique se joue dans des salons, dans des villages, devant des trucs. Donc pour nous, c'est un peu une révolution d'arriver à faire ça, en venant un peu de ce mainstream qui est le showbiz, le monde des télés, sortir, faire une tournée, tout ça. C'est une réinvention un peu, et c'est assez chouette. Et puis aussi, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est la disparition de l'image. C'est-à-dire que tout à coup, les gens ne sont pas focalisés sur votre tronche pendant que vous êtes en train de chanter. On est dans le noir. Et même les gens savent pas qui a chanté quelquefois. S'ils sont vraiment, ils ont joué le jeu.
Il y a une écoute flottante, hein, exactement.
Voilà. À la fin, ils disent, mais qui a chanté cette chanson? Elle était vachement belle, elle m'a plu.
Quand Vanessa Paradis est venue, elle est venue deux fois. Mais la première fois qu'elle est venue, je me souviens, c'était à la loge, il y avait 50 personnes allongées autour, et donc les gens la voyaient pas, elle était un peu dans l'ombre et tout. Et on a fait une version très 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 douce de Joe le Taxi. Et je connaissais quelqu'un qui était dans la salle et dont les voisins ont dit « Oh non, mais c'est abusé d'imiter Vanessa Paradis comme ça, c'est vraiment nul et tout ». Et à la fin, ils ont été super surpris de voir que c'était en fait elle.
Est-ce que ça vous inspire ce dispositif, Véronique Mortagne?
Eh ben, oui, quand même, parce que effectivement, comme vous le disiez, dans beaucoup de cultures, on pratique ce genre de concerts dans les salons ou acoustiques. Et si vous prenez les cabarets Rive Gauche, où il n'y avait pas... vraiment une amplification comme on l'a maintenant, hein, comme vous l'avez eu quand vous avez commencé, etc. On vous jetait sur une scène et où il fallait essentiellement essayer de chanter assez fort pour couvrir le bruit des gens qui discutaient et qui dînaient.
Et puis c'est pas très plaisant en soi, en fait. Déjà, ouais. c'est quand même... Faut prendre sur soi pour entendre sa voix tout le temps dans un micro avec un volume. Enfin, moi, j'ai encore du mal, quelquefois, à arriver à faire une balance dans une salle, effectivement, qui est assez grande, d'une certaine taille. Et tout à coup, c'est très fort. Il faut s'habituer à cet autre soi. Et c'est pas très confortable.
Ça, quand on revient à la génération de l'époque Canetti, par exemple, des Trois Baudets, ou de La Colombe, etc., bah, il fallait vraiment... On avait des artistes qui étaient morts de peur, déjà, parce qu'ils n'étaient protégés par rien. Hein, que ce soit Brel qui vomissait... à chaque fois qu'il rentrait en scène,
Anne-Sylvestre qui allait pleurer entre chaque chanson,
voilà, et qui prenait une guitare, Bobby Lapointe qui arrivait depuis la cave, hein, puisqu'il n'y avait pas de place, et il jouait de la guitare parce que de toute façon il n'y avait pas la place pour autre chose. Donc c'était cette espèce de combat solitaire aussi qu'il y avait, et puis en même temps ils chantaient ensemble tout le temps. Hein. Donc là c'est une manière de revisiter de manière très douce et que j'apprécie beaucoup. Hein,
et retrouver vraiment l'énergie.
Une énergie collective de chanteurs et de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un interprète, qu'est-ce que c'est qu'un chanteur, qu'est-ce que c'est qu'un musicien.
Et qu'est-ce que c'est aussi qu'une génération. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant parce qu'il y a toujours de la dramaturgie dans les disques, dans les albums de Bastien Lallemand, ça commence par les lacets, donc quelque chose qui se noue et ça finit par nous réunir. Donc on peut dire que tout est parfaitement travaillé. Vincent Delerme a fait partie, j'imagine, des siestes acoustiques ou jamais?
Oui, il est passé par là.
J'imagine. Il y a 20 ans, il sortait son premier album. C'était à l'affiche de l'Européen à Paris avec Jeanne Chéral, qui commençait elle aussi pour une série de concerts sur 4 semaines à l'époque. On voit plus ça aujourd'hui. 20 ans plus tard, il est seul. Il remet ça aux mêmes dates. Il est en ce moment, il y reste encore le 19, 20 et 21 mai, toujours donc à l'Européen à Paris. Je vous y ai vu, vous m'y avez vu, Véronique Mortagne,
on y est allé.
Il y avait Renaud qui était dans la salle.
Oui.
Delerme se souvient avec Jeanne dans Côté Club.
Et je vois très bien ta robe sur la scène. Visage de profil. Aventura, la loge, le bordel, les 4 semaines, la place de Clichy, ce printemps-là, à Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes, nos deux noms en rouge à l'Olympia. Sur la place, on traîne s'achète un truc et on s'assoit avec Jeanne. Avec Jeanne.
Vincent Delerme se souvient et Marion Guilbeault fait de la prospective. Les nouveautés nouvelles tout de suite dans Côté Club.
Alors, quelles sont les 5 œuvres musicales que vous préférez ?
Côté
TV. Votre top des disques.
Club. On pourrait écouter chez moi dans un club.
Sur France Inter.
Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent sur les voies d'Héloïse Decaze et Sing Sing. Ça fait un petit moment qu'on les suit dans leur déambulation. Vous les avez sans doute croisés. Bastien, JP, Albin, Armel, il s'agit du duo Arlt. Noyau dur, ces deux-là, avec autour d'eux des musiciens, amis, satellites, comme le guitariste Moke. Arlt, c'est un couple de musique qui rappelle celui que formaient Brigitte Fontaine et Areski. On y retrouve cette joie, cette liberté d'écrire, de jouer de la presque musique, de vivre chaque chanson comme une aventure. Ils sortent la semaine prochaine leur 6e album, Turntable, un disque enregistré au salon, dans la chambre, en studio, chez la voisine, au jardin. Un disque qui tourne et qui tord les chansons. Un disque qui tente de réconcilier les contraires, le populaire avec l'expérimental. Un disque qui, comme d'habitude, nous chahutera et nous charmera.
Je suis amoureux d'une fille.
Avec un clip réalisé par Bertrand Belin. C'est une des chansons de Turntable, le nouvel album de Arlt, qui sort donc vendredi. Ils seront en concert le 20 mai à Thiers, le 21 à la Chaise Dieu. À la Boule Noire à Paris, ce sera le 5 juin. Autre duo à l'affiche de ces nouveautés nouvelles, c'est celui de Embrasse-moi. Repéré par un premier disque il y a 4 ans, un disque aussi étrange que séduisant, il y avait une chanson fleuve qui durait 8 minutes 45, ça s'appelait « J'ai un plan » et ce titre avait frappé de nombreuses oreilles, dont celle du styliste Eddie Slimane. Embrasse-moi continue de suivre un chemin à part, fait de chansons haïku sur des musiques répétitives qui ont, comme celle de Arlt, le don de nous déstabiliser. Leur nouvel album porte donc très bien son nom, Grand Écart, un laboratoire où tout est permis, où Emmanuel Hadjadj au chant et Antoine Simoni à la basse contournent toujours la facilité. Ils se concentrent sur l'intime, sur ce qui nous lie comme sur ce qui nous éloigne les uns des autres.
C'est ce qu'on pense que nous on croit.
l'importance de la danse. Ça vous parle, ça, Laurent Goumard?
Oui, tout à fait. C'est le troisième titre de l'album, voilà, que j'adore.
C'est signé Embrasse-moi et c'est hébergé sur le label TFT. Plus classique dans sa forme, le dernier son de ses nouveautés nouvelles. Il est signé par un artiste québécois, Jonathan Person, alias Jonathan Robert, leader du groupe Corridor, artiste vidéaste recherché dans la belle province. Il a déjà publié deux disques très recommandables et semble à la poursuite de l'âge d'or de la pop, à la recherche de la mélodie, de l'arrangement qui sublimerait tout et des voix en harmonie. Mais Jonathan Person ne se positionne pas pour autant comme un gardien du temple. Il y a des débuts dans une économie lo-fi qui ont façonné un son, l'envie de croiser des esthétiques, tout ça, ça donne vraiment de la fraîcheur à ses chansons. Son nouveau titre fait la part belle au mélotron et à pédale style. Il s'intitule Un homme sans visage et quand on s'en surnomme Person, ça tombe sous le sens.
Un homme sans visage,
Jonathan Person, ce sera retrouvé sur son nouvel album attendu cet été sur le label Bon Son. Alt, Embrasse-moi, Jonathan Person. Il y a une chanson à retenir dans ces nouveautés nouvelles, Bastien?
Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu Alt, ouais. Et ça me donne envie d'aller voir. Mais je trouve qu'ils se ressemblent, mais je vais aller voir.
Véronique Mortaigne?
Oui, je suis assez d'accord. Je ferai la même chose.
Albin?
J'irai voir J'embrasse pas.
C'est super.
Embrasse-moi. Embrasse-moi.
Oui, enfin, si je devais aller en voir.
J'embrasse pas.
D'accord. Armel?
Moi, j'ai bien aimé aussi Embrasse-moi. Le son est super. C'est complètement. Ça donne envie de dire.
C'est le deuxième groupe, mais j'arrive pas à retenir leur nom.
Embrasse-moi. Tu veux vraiment que je le redise encore une fois?
En même temps, Arlt, on sait super. On l'adore.
Pendant longtemps, pour moi, c'était, il y avait le feu, il y avait l'urgence. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Chanter. Et puis écrire. Quand quelque chose n'allait pas, c'était, je vais écrire.
Côté.
Je fais des chansons parce que j'ai le don de le faire. Moi, je faisais des chansons de femmes au nom d'une femme.
Club.
Il est certain qu'on doit s'imposer quand même. Pendant très très longtemps, il y avait beaucoup de chanteuses, mais elles chantaient des chansons écrites par des hommes, c'est-à-dire qu'elles chantaient ce que les hommes avaient envie d'entendre.
Sur France Inter.
Il faut bien expliquer quelquefois pourquoi on ne se met pas à chanter les mêmes choses que certains autres, et pourquoi on a envie de chanter ses propres petites chansons en y mettant tout ce qu'on a envie d'y mettre.
Et il se trouve que j'ai le don de trouver les mots, et alors ma foi, je m'en sers.
Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici, mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon.
Mon mari est parti, la voix d'Anne Sylvestre, une chanson que vous avez choisie, Véronique Mortaigne, et que vous citez d'ailleurs dans votre livre, deux ou trois fois. Anne Sylvestre, Une vie en vrai, ça c'est le titre du livre. Pour quelle raison cette chanson, vous l'avez choisie ce soir?
Parce qu'elle parle de la guerre, et que la guerre a été le grand traumatisme d'Anne, qui a refusé tout engagement politique, si ce n'est féministe, et encore, elle n'a jamais été inscrite dans un mouvement, jamais, elle n'a jamais voulu. Et elle n'a jamais voulu suivre un quelconque drapeau, puisque son père l'avait fait, et que ça l'avait mené à la catastrophe. Il avait basculé du mauvais côté, comme il disait, et que sa revendication, tout le temps, était qu'on ne l'invente pas, qu'on la laisse vivre comme elle était. D'ailleurs, dans Une sorcière comme une autre, qui est une de ses chansons phares, elle dit « ne m'inventez pas », parce qu'elle étouffe si on l'invente, donc si elle est soumise... Et là, elle rejoint tous les néo-féministes, hein, c'est les soumises au male gaze, c'est à la vision conforme de la femme vue par un homme. Elle meurt, donc c'est ça qu'elle veut expliquer. Elle veut chanter des chansons qu'elle a composées. Elle appelle les gens par leur nom. Elle est, oui, il y a des noms. C'est pas n'importe qui, c'est pas des généralités. C'est Marion, c'est son grand-père, etc., à qui elle s'adresse pour leur expliquer qu'il ne faut pas l'étouffer. Et toute sa vie, elle a fait ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. En plus, ses chansons sont extrêmement bien écrites. Et quand on les voit chanter en scène, j'ai vu la semaine dernière chanter par des jeunes femmes, et ça prend tout son relief, ce sont des fables, elles sont extrêmement bien construites. Et elles expliquent ça, et on peut à chaque fois s'y retrouver. D'ailleurs, ce qui a été mon cas, parce que j'ai trouvé des points d'accroche avec ma propre histoire, qui fait que j'ai pu lui parler.
Une vie en vrai, c'est le titre. Vous savez pourquoi les uns les autres, elle a choisi ce titre, Albin, Armel.
Du tout, non.
Pour quelle raison?
Il y a une chanson qui s'appelle comme ça.
Il y a une chanson qui s'appelle comme ça, c'est pour cette raison. Mais c'est très beau, une vie en vrai.
Oui.
Ça donne en plus la réalité de ce qui s'y passe. C'est un livre à base d'entretien que vous avez réalisé chez elle, à Paris. Sa maison lui ressemblait?
Oui, tout à fait. Elle habitait dans un quartier populaire. Où il y avait d'ailleurs, elle a écrit une très belle chanson sur les femmes africaines qui descendaient sa rue, elle habitait rue de la Réunion. Et elle adorait traverser la rue pour aller manger des plats turcs chez ses copains. Et cette maison, elle était un peu en désordre, elle était fouillie, elle était un peu tarabiscotée. Il y avait des escaliers, des céramiques. Enfin, c'était tout à fait elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre voulu. C'était tout ce qui était conforme à un programme, conforme à une architecture, elle n'aimait pas. Sauf les mots, puisqu'elle les utilisait à bon escient.
Vous connaissiez sa maison, vous, Albin de la Simone, parce que vous la connaissiez un peu, Anne Sylvestre, quand même.
Je la connaissais un tout petit peu, mais ce qui est fou, c'est que j'ai emménagé il y a 3 ans à 200 mètres de chez elle, et je ne l'ai jamais vue dans le quartier. Voilà, j'ai juste vu des émouvants bouquets de fleurs devant sa maison à sa mort. Voilà, non, je la connaissais pas assez pour aller chez elle.
Vous l'aviez rencontrée quand même à plusieurs reprises,
non? Oui, je l'ai rencontrée plein de fois, depuis 20 ans. Dont une fois où je l'avais invité à venir nous écouter avec Vincent Delerme et Jeanne Chéral quand on a chanté à l'invitation de Vincent Delerme Les gens qui doutent, et c'était fou de la voir au premier rang du balcon. Donc elle était là un peu comme Napoléon, enfin c'était un peu le côté, elle était en position royale
et on
chantait sa chanson. Elle n'était pas au courant qu'on allait faire ça, donc elle a été très touchée, très émue, puis presque pas blessée mais un peu agacée
que ce soit cette chanson-là, encore.
Ouais, encore cette chanson-là. Ah, ça, encore oui. Pas les fabulettes. Enfin, encore les fabulettes, encore cette chanson-là. Et cette chanson est tellement géniale que tout le monde la veut. Mais du coup, c'est comme si elle le vivait comme une réduction. Alors que c'est déjà fou.
Mais oui, il avait très peur de ça. Bah, j'ai écouté des émissions même sur France Inter.
Même avec Laura Adler. Laura Adler lui passe cette chanson et elle soupire.
Ouais. Laura Adler est désespérée à la fin de la chanson. Elle lui dit, mais enfin, depuis que la chanson a commencé, vous n'avez pas arrêté de soupirer, de dire, de siffler, etc. Vous ne vous aimez pas. Et elle dit, bah si, bien sûr. Mais pourquoi cette chanson encore? Et après, elle raconte que des pompiers sont venus la voir à la fin du spectacle pour lui dire que cette chanson leur était nécessaire. Donc c'était ça faisait dingue, partie de la contradiction dingue. D'Anne Sylvestre, qui était bougon parfois, mais vraiment rude, et drôle, mais d'une drôlerie incroyable.
Alors justement, comment vous avez su gagner sa confiance? Parce que faire des entretiens avec Anne Sylvestre, c'était pas gagné. Elle dit que tout est dit dans ses chansons et qu'elle n'a rien à dire. Elle avait une réputation rabat-joie, ironique, corrosive, révoltée. Ce sont même les mots de Vincent Delerme. Le parcours n'était pas évident non plus. Elle était un outsider pendant longtemps de la chanson française. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il faut quand même le dire. Comment vous avez gagné sa confiance?
Ben, c'est-à-dire, c'était paradoxal là encore, parce qu'elle a quand même vendu quelques millions de fabulettes.
Exactement.
Vraiment, et elle a été la première femme productrice indépendante, puisqu'elle a quitté Philips, elle a quitté Gérard Armès, et elle s'est installée à son compte.
Hein. Alors, le drame, c'est qu'elle a quitté Philips pour des raisons très tristes, parce qu'en fait, le lot d'une femme à l'époque, c'était quand même pas si facile. Elle était dans une maison de disques où il y avait déjà des femmes, il y avait déjà Juliette Gréco, bon, ça comptait pas parce qu'elle faisait pas ses chansons, mais Barbara est arrivée.
Oui.
Barbara avec un gros succès, et à ce moment-là, ben, il y en avait une de trop.
Et ça a été elle.
Donc elle a été virée.
C'était elle dont elle a été virée, clairement. Oui, et surtout quand Canetti est parti, qu'il a continué à la défendre un petit peu. Mais elle a été virée. Et puis après, elle a commencé à faire des fabulettes très tôt, hein, quand elle avait du succès encore. Elle a eu des moments de creux, etc. Mais à chaque fois, elle est revenue. Et puis le dernier concert qu'elle a fait, par exemple à Vannes, juste avant de mourir, il a été plein. En une demi-heure, ils ont rempli 850 places. Enfin, c'était incroyable. Et elle avait fait cette chanson qui s'appelait « Les rescapés des fabulettes », qui était donc des gens qui avaient écouté les fabulettes, qui sont formidables, et qu'elle ne dénigrait pas. Hein, elle disait qu'elles étaient formidables. Elle les chantait. Quand on buvait un thé et tout, elle chantait les fabulettes. Elle me disait « Mais c'est joli, ça hein. !» Oui, ben, je dis « Oui, c'est très beau, quoi. » Voilà. Et après, si vous voulez, la confiance, elle est venue certainement. Un jour, moi, j'étais critique au Monde. Elle publie Les Arbres Verts, qui est un album assez joli et assez drôle. Et dedans, il y a une chanson qui s'appelle Le Pont du Nord. Et donc, elle vient me donner une interview à la cafétéria du Monde. Tout le monde l'arrête en disant « Ah, Anne-Sylvestre, les fabulettes, elle est bougon comme jamais. » Et puis, elle me dit « Vous avez compris cette chanson ?» J'ai dit « Ben, oui, ça parle de vos frères. » Elle me dit « Oui. » Et puis elle me dit « Mais vous saviez que mon père était collabo ?» Et je lui dis « Non, je ne sais pas. » Et là, elle me le raconte, c'est en 98, elle ne l'avait jamais dit.
Exactement.
Et nous, ben, on a fait juste une petite ligne à la fin pour
C'est-à-dire
dire
que dans l'article, ne fait pas événement de cette révélation.
Non,
c'est ça qui
non,
l'a
pas
mise
du
en confiance.
Ouais. Ça la met en confiance, oui, parce qu'elle dit ben, « Elle a pu dire ce qu'elle voulait dire, enfin, parce que c'était un secret assez lourd pour elle. »
Mais elle avait été condamnée à perpétuité quand elle avait 15 ans,
Exactement.
Et elle a été libérée 10 ans plus tard.
Oui.
Et elle est devenue un de ses fans, c'est-à-dire
oui.
qu'il allait en concert
oui.
la voir dans le cabaret Rive Gauche, qui n'était pas oui. du tout son esprit. Et d'ailleurs, il adorait cette vie-là.
Et beaucoup de gens se moquaient du nez d'Anne Sylvestre, hein, qui était quand même...
Un nez assez proéminent.
Proéminent, Cocatrix lui disait « Mais Anne, ne rentrez pas par le mauvais profil. » Ne rentrez pas de profil, parce que sinon le nez, ça ne va pas.
Non, mais c'est fou, hein. Ouais.
Et le père se disputait avec des dîneurs ou des gens qui buvaient des verres et qui disaient « Oh là là, le nez, etc. Qu'est-ce qu'il a, le nez de ma fille, etc. » C'est quand même assez intéressant. Et puis, le grand hic là-dedans, c'est que on n'est pas responsable de ses parents, hein, on est responsable de ses enfants et pas de ses parents. Et en fait, elle aimait son père, et il a toujours dit, et c'est ça qu'elle avait envie de me dire, quand on avait des discussions après chez elle, elle me disait, j'aime mon père, il est mort, hein, depuis longtemps, mais j'aime mon père, il a été le bras droit de Doriot. Il est tombé du très mauvais côté, il était anti-bolchevique, il était très catholique, et il a suivi un peu ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette communauté, on va dire, de pensée. Et elle ne pouvait pas dénier, elle ne peut pas renier l'amour qu'elle portait à son père. Et c'était assez douloureux et en même temps consolateur.
Il y avait un autre secret aussi, c'est qu'elle était la sœur de Marie Chex. Marie Chex qui était la secrétaire de Barbara.
Trahison,
double trahison.
Ah,
en fait.
Double trahison, oui, parce que
c'était la rivale de toujours.
C'était
alors même que Barbara admirait Anne Sylvestre. Hein,
ah bah bien sûr, oui. Et inversement, hein, donc c'était pas le problème. Le problème, c'était l'environnement, les gens qui avaient autour et comment Barbara, qui était très glamour, en dehors de ses talents, là on ne fait pas de comparaison artistique, finalement écrasait quand même Anne Sylvestre qui
arrivait avec ses anoraks. Oui.
Voilà, mais Anne Sylvestre avait une drôle de voix. Il faut dire aussi qu'elle avait une voix très décalée, qu'elle était souvent bougon, qu'elle ne voulait pas se prêter au jeu. Elle était mère de famille, quand elle recevait des journalistes chez elle avec des biberons, etc.
Elle donc, était en grande banlieue aussi.
En grande banlieue, voilà, c'est ça. Et donc, quand elle chantait dans les Rives Gauches, par exemple, elle passait la nuit avec Bobby Lapointe à boire des verres en attendant le premier train. Hein, c'était toute cette ambiance, quoi, qui était. Et puis elle fait partie d'une histoire française. Après la libération, avant de chanter, elle va se reconstruire au Glénan. Donc elle fait l'école de voile des Glénan. Elle est une des rares femmes. On lui dit les bateaux sont trop lourds, hein, tu vas pas porter des bateaux. Donc elle porte des bateaux. Puis elle commence à faire des chansons à ce moment-là. Et les Glénan, c'est un lieu incroyable de résistance. C'est des résistants très très puissants qui ont monté cette école de voile. Et elle se ressource avec les scouts, etc. Et on l'entend dans ses chansons d'ailleurs, hein, puisque c'est grande spécialiste du chant catholique, on va dire.
Autre drame aussi dans ce parcours, ça arrive aussi aux chanteurs, c'est-à-dire qu'elle arrive au très mauvais moment. Elle arrive dans les années 50, 60, et en 63, c'est fini pour elle. Enfin, d'une certaine façon, parce que c'est la vague yéyé qui emporte tout, et elle est ringardisée, mais du jour au lendemain. Il y a un concert Place de la Nation, avec toute la génération yéyé, et puis c'est fini pour elle.
Ça a été vrai pour elle, c'était vrai pour Gréco aussi, hein, par exemple. Hein, c'est-à-dire que cette vague rock'n'roll, elle balaye tout, et ils sont effectivement... Alors il y a quelques rares icônes comme ça qui continuent, mais Gréco, elle l'a subi extrêmement fortement également. Hein. Donc, c'est la nouvelle musique, c'est la nouvelle liberté, et pourtant ces femmes sont très libres. Hein, elles sont sûrement beaucoup plus libres que...
Sheila, Sylvie Vartan...
Je sais pas si c'était le nom.
Qui était quand même sous la coupe de leur producteur. Alors oui, justement, ça sera la première femme productrice de ses propres œuvres. Elle va avoir un diffuseur. Elle était productrice pour une simple raison, c'est qu'elle savait qu'elle pourrait vivre de sa musique avec son répertoire pour enfants extrait.
Y a des yaourts à tout, y a des ya-ya, y a des yaourts, y a des yaourts à tout. Y a des yaourts à la fraise, on les mange bien à l'aise. Des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Des yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, au lait de brebis.
Je lisais que les yaourts à tout, c'était votre fabulette préférée. C'est ce que vous dites.
Ben oui.
Pour quelle raison?
Ah ben, je sais pas, parce que j'étais avec les enfants et puis ils chantaient les yaourts à tout. Puis ça finit parce qu'il y a même des yaourts à rien, et ça je trouve ça génial, parce que ça veut dire qu'il faut accepter tout, quoi. Les yaourts au début sont très gentils sur la groseille et tout, puis après ils ont des dents qui mordent, etc. Enfin ça dégénère et c'était très festif, quoi. Hein.
Autour de la table, vous étiez la génération Fabulette ou comme moi plutôt la génération Chantal Goya?
Ah, moi j'ai adoré les Fabulettes. J'ai écouté un peu sur le tard aussi, pareil. Quand j'étais jeune, je trouvais ça très ringard, et puis j'ai découvert ça sur le tard. Moi j'adore Fraise des Bois.
Très bien, Fraise des Bois.
Magnifique.
JP Nataf, vous connaissez ce répertoire?
Je suis passé complètement à côté.
Oui, complètement à côté.
Je suis beaucoup plus vieux que tout le monde.
C'est vrai, c'est notre grand-père à tous. Eh bien, on va se quitter pour ce soir. Merci à vous. Merci Bastien Lallemand, Albin Da Simone, Armel Pioline, JP Nataf. L'album, c'est Les Micro-Siestes Acoustiques Volume 1. Et puis on va vous retrouver pour vos siestes le 21 mai au Festival Premier Roman de Chambéry, le 22 mai à Tournai en Belgique et du 22 au 29 à Marseille. Merci Véronique Mortaigne.
Je vous en prie.
Anne Sylvestre, Une vie en vrai, apparue aux éditions Équateur. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain?
À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays.
Ça tombe bien, elle a déjà enlevé le masque. Canine sera notre invitée avec à ses côtés Issa Yasuke. Et pour vous, Marion?
Je sais pas encore.
D'accord. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Ça veut dire qu'elle a rien foutu. Sur vos deux oreilles, réalisation Stéphane Le Guenec. Non, qu'elle cherche, elle cherche, elle va trouver. À la technique ce soir, Thomas Langlin, Alexandre Chénet, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation et Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.